Bonjour frères et sœurs, pour moi une grande joie de vous servir ce matin. Vous avez remarqué que j'aime un peu bouger parce que je vis. Alors il faut que je puisse vous transmettre un peu la joie que j'ai afin que le Seigneur puisse nous bénir ce matin ensemble. Depuis, comme dit votre pasteur Frédéric, je suis depuis vendredi avec vous et Dieu a visité vendredi. Il y a des personnes qui ont été guéries vendredi. Est-ce que les personnes qui étaient là vendredi sont là ce matin? Oui, je vois plusieurs mains, d'accord. Est-ce que des personnes ont été guéries ce matin? Vendredi. Oui, je vois une main, je vois deux mains, trois mains, quatre mains. Est-ce que d'autres mains peuvent se lever encore qui ont été guéries? Est-ce que des personnes ont eu des paroles de connaissance où moi, je ne connaissais pas la situation, le Seigneur a révélé dans cette réunion de vendredi une situation particulière où Dieu a posé sa main et il vous a révélé cela. Est-ce que vous l'avez vécu vendredi? Non, personne? D'accord. Que la gloire revienne à Jésus-Christ, notre Seigneur. L'histoire que j'aimerais partager avec vous ce matin, frères et sœurs, hier on était avec les ados et la jeunesse. Et ma joie était grande de voir que six ados, plus un jeune, je crois, qui se sont levés, ils se sont donnés au Seigneur. Le plus grand des miracles, c'est quand une âme quitte les ténèbres, quitte les puissances des ténèbres, quitte le péché, entre dans le royaume. La Bible dit ceci, il y a de la joie quand une âme quitte les ténèbres, quitte la puissance du péché pour entrer dans le royaume de Dieu. Ça, c'est le plus grand des miracles. Et on peut continuer à prier pour les ados, pour les responsables d'ados, afin que la jeunesse puisse rencontrer le Seigneur et marcher avec le Seigneur et garder aussi cette voie jusqu'à la fin de leur vie quand Jésus reviendra. Amen. L'histoire que j'aimerais partager, c'est l'histoire d'un homme. Vous le connaissez et peut-être que vous avez entendu déjà une prédication sur cet homme-là. Quand Dieu est venu se révéler à lui, il était dans une position de faiblesse. Il ne croyait plus que Dieu pouvait l'utiliser. Il ne croyait plus à ce que Dieu avait mis en lui. Il était comme réduit à rien, dans une situation où il se trouvait et Dieu va choisir ce moment propice pour parler à son cœur. Et ce matin, le Seigneur vous a conduit ce matin, ce n'est pas un culte normal, ce n'est pas un culte ordinaire seulement, mais parce que quand il y a la présence de Dieu, il va se passer des choses surnaturelles qui dépassent l'entendement humain. Est-ce que ça va les gars poncés et les gars poncèses? Ça va, je ne crie pas trop, ça va? Ça va. Vous avez pris votre café, donc il n'y a pas de problème. Cet homme doutait de ce que Dieu pouvait faire avec lui encore. Et quand Dieu va le rencontrer pour lui ouvrir son cœur, pour partager ce que Dieu avait dans le cœur, il va se poser cette question. Et peut-être que vous vous posez la question ce matin. Cet homme était puissant en parole et en œuvre. Il était un homme qui avait de l'autorité. Mais là, dans la situation où il va se trouver, c'était un homme faible, limité, qui se trouve dans une situation d'un métier où il n'avait jamais pensé. Vous ne voyez pas qui c'est? Dieu va lui confier une grande responsabilité dans ce monde qui va impacter un peuple. Dieu va descendre non seulement pour lui ouvrir son cœur, mais Dieu va le choisir. Il était le choix de Dieu avant de venir dans ce monde. Dieu va l'introduire dans cette mission, mais cet homme va se poser la question. Qui suis-je? Ça vous dit quelque chose? Cet homme va dire à Dieu, mais qui suis-je pour que tu puisses venir vers moi et me choisir? Qui suis-je pour que tu jettes un regard sur moi et me dis, c'est toi que j'ai choisi? Qui suis-je? Le qui suis-je des hommes, que vous le voulez ou pas, un jour vous vous poserez cette question à une circonstance ou à un événement de votre vie. Qui suis-je? Est-ce que je suis capable? Est-ce que je vais y arriver? Qui suis-je? Est-ce que je vais faire ce que Dieu m'appelle à faire? Qui suis-je pour que Dieu m'aime? Qui suis-je pour que tu me confies une grande mission? Pour aller délivrer ton peuple que tu aimes. Qui suis-je pour aller devant Pharaon et affronter l'homme le plus puissant du monde à l'époque? Qui suis-je, blanc encore des femmes et des hommes dans ce monde, confronté à l'appel de Dieu, confronté à l'amour de Dieu, confronté à la grâce de Dieu, confronté à la puissance de Dieu, confronté à la miséricorde de Dieu, et dit dans leur cœur, qui suis-je, Seigneur? Le qui suis-je est nécessaire pour que nous puissions rendre compte que nous sommes rien, nous sommes que des hommes, et lui, il est Dieu. Si je ne me pose pas la question, qui suis-je, alors je ne peux pas connaître ce que je suis à travers la grâce et l'amour de Dieu. Si Moïse ne s'est pas posé cette question, il n'allait pas connaître qui était Dieu. Mais parce qu'il s'est posé cette question, Dieu va lui révéler que Dieu va l'accompagner pour la mission pour laquelle il a été créé. Qui suis-je? Qui suis-je bloque encore des hommes et des femmes et des jeunes? Qui suis-je nous ramène à notre faiblesse, à nos limites, à nos échecs, à nos lacunes, nos incompétences, nos brisements, nos peurs et nos craintes. Ce simple mot « qui suis-je » montre le mal intérieur de foi qui cache à l'intérieur de l'homme et qui ne sait pas comment identifier. Ou peut-être deux fois la perte de l'identité devant les situations ou les événements qui nous dépassent. Qui suis-je pour que le Créateur vienne se présenter à moi pour jeter un regard favorable? Ce qui suis-je, une jeune femme l'a vécu. Elle s'appelle Marie. Quand Dieu va envoyer l'ange pour parler à son cœur, il lui dit que tu vas enfanter un fils et tu lui donneras le nom de Jésus-Christ et cet enfant-là va être le sauveur du monde. Mais il va dire, comment ça, elle va se dire, mais comment ça va se passer? Comment ça va se passer? Moi, je ne connais pas d'homme. C'est pas normal. C'est pas dans les choses normales de ce monde. Mais qui je suis pour que tu puisses venir me faire grâce? Qui suis-je? Je ne sais pas quelle question vous vous posez dans votre cœur. Si vous dites ce matin, je vais faire par ma force, je vais arriver, j'ai toujours arrivé, j'aimerais vous dire, vous faites fausse route. Parce que la vie vous montrera que vous avez des limites. Les circonstances et les événements vous montrera que vous allez avoir des échecs. Ce n'est pas une prophétie. Hein. C'est la vie normale. On ne peut pas tout réussir dans la vie. Les gars pensés, ça va? Les gapillons aussi? D'accord, les gapillons sont à la maison. Nous allons lire, s'il vous plaît, Exode, chapitre 3, versets 7 à 14. Pasteur, j'ai combien de minutes? La question que... C'est une question difficile à répondre. D'accord, mais je me soumets quand même, si vous me donnez... D'accord, 45 minutes, d'accord. Exode 3, verset 7-14. On va lire à partir de verset 5. Dieu dit, « Ne t'approche pas d'ici, retire tes sandales, car l'endroit où tu te tiens est une terre sainte. » Il ajouta, « Je suis le Dieu de ton père, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. » Moïse se cacha le visage, car il avait peur de regarder Dieu. L'Éternel, verset 7, l'Éternel dit, « J'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte et j'ai entendu les cris qu'ils poussent devant ses oppresseurs. Oui, je connais ses douleurs. Je suis descendu pour le délivrer de la main, de la domination, par exemple, des Égyptiens et pour le faire monter dans ce pays juste, dans un bon et vaste pays, un pays cool, où coule le lait et le miel. C'est l'endroit qu'habitent les Cananéens, les Hittites, les Amoréens, les Phérésiens, les Essiens et les Jébusiens. Maintenant, les cris des Israélites sont venus jusqu'à moi. J'ai aussi vu l'oppression que leur font subir les Égyptiens. » Verset 10. « Maintenant, vas-y, je t'enverrai vers le Pharaon et tu feras sortir d'Égypte mon peuple, les Israélites. » Moïse dit à Dieu, « Qui suis-je pour aller trouver le Pharaon et pour faire sortir les Israélites d'Égypte ?» Dieu dit, « Je serai avec toi. Voici pour toi le signe que c'est moi qui t'envoie, quand tu auras fait sortir le peuple d'Égypte, vous servirez Dieu sur cette montagne. » Moïse dit à Dieu, « J'irai donc trouver les enfants d'Israël et je leur dirai, le Dieu de vos ancêtres m'envoie vers vous, mais s'ils me demandent quel est ton nom, que leur répondrai-je ?» Dieu dit à Moïse, « Je suis celui qui suis. » Il ajouta, « Voici ce que tu diras aux Israélites, je suis m'a envoyé vers vous. » Amen. Ce n'était pas une tâche facile pour Moïse. Moïse se trouvait dans une situation, il avait comme une perte d'identité. Alors Dieu va venir déverser son cœur sur Moïse et Moïse va poser cette question à Dieu. Qui suis-je? Qui suis-je pour que toi, le Créateur, comme je l'ai dit tout à l'heure, tu viens jusqu'à moi dans ma misère, dans ma souffrance, dans mes blessures? Parce que Moïse avait le projet de devenir quelqu'un en Égypte et il était sur le point de devenir. Mais là, il va faire une erreur et cette erreur va le pousser à partir de l'Égypte, à fuir et aller dans le désert et dans le pays de Madian. Et là, pendant des années, Dieu va le rencontrer. Le moment propice était venu. Dieu va le rencontrer et Dieu va le toucher pour le confier cette mission pour laquelle il a été créé avant la fondation du monde. Souvent, Dieu nous rencontre dans les moments où on ne s'y attend pas, où on n'est pas préparé, où on se sent petit à nos yeux. Dieu dit à Saül, quand tu étais petit à tes yeux, alors que l'orgueil n'était pas encore monté dans le cœur de Saül, Dieu va choisir cet homme pour le faire roi. Mais quand après l'orgueil va monter dans son cœur, Dieu va dire à Saül, quand tu étais petit à tes yeux, je t'ai élevé. Qui suis-je? Perte d'identité, un homme qui était bouleversé, chamboulé. J'ai pris le dictionnaire Larousse, je commence à regarder, comme les gars pensaient, les gars pensaises. Ah, vous avez des dictionnaires aussi, non? Vous me faites peur, là. Vous avez Larousse aussi, non? J'ai pris le dictionnaire Larousse, alors je commence à regarder. Chamboulé, bouleversé, c'est mettre sens dessus, dessous. Mettre sens dessus, dessous. Le synonyme, c'est chambarder, mettre en désordre. Moïse vivait dans une situation de chaos, bouleversé. Il était chambardé. Parce que lui qui était projeté pour devenir quelqu'un en Égypte, voilà, il se retrouve berger. Il se retrouve moins que rien à faire un métier où lui-même il ne savait pas. Qui suis-je? On a l'impression que Moïse ne savait pas où il était. Il était devenu réfugié dans le pays de Madian, un pays qu'il ne connaissait pas très bien. Ça faisait des années qu'il vivait, mais c'était d'une position de fuite pour entrer dans un pays. Peut-être qu'il ne maîtrisait pas peut-être la langue, peut-être la culture. Le mode de vie, pour lui, était nouveau. Moïse se retrouve dans la peau d'un étranger loin de chez lui, séparé des personnes qu'il aimait, séparé des personnes qui lui donnaient des conseils, séparé de son père et de sa mère, séparé de son peuple, séparé de tout ce qu'il connaissait, qu'il maîtrisait. Se retrouve comme berger. Il faudra encore bien des années que Dieu va venir pour lui parler à son cœur parce que Dieu le préparait à cela. Peut-être qu'il avait perdu l'espoir que pour moi l'appel c'était fini. Que pour moi il n'y a plus rien à faire parce que mon erreur fait que je ne peux pas entrer dans ce que Dieu a prévu pour moi. J'aimerais dire à quelqu'un qui pose cette question dans son cœur, Dieu n'a pas fini avec vous. Dieu n'a pas dit son dernier mot. Dieu, il est le Dieu qui peut reconstruire sur la ruine. Même si votre vie a été comme une ruine, il est capable de rebâtir sur des anciennes ruines. Je ferme la parenthèse, cette parole concerne une personne, je vais continuer le message. Il s'est retrouvé en Égypte. En train d'exercer, il était en Égypte en train d'exercer un métier où il était prédestiné à devenir pharaon, mais il se retrouve comme berger, à tendre les moutons, à prendre le bâton, à diriger les moutons. Lui qui dirigeait des hommes, lui qui avait l'autorité, il parlait. La Bible dit de lui qu'il était puissant en parole, en œuvre, quand Moïse parlait, tout se pliait à genoux devant lui. Mais là, il se retrouve à parler aux moutons. Vous connaissez le langage des moutons? Les gapons-ci, les gapons-ces. Les moutons, ils bêlent, c'est ça? Il fait... Ah. Moïse leur parlait pour les conduire dans un... pour les conduire, pour qu'ils puissent avoir des bons pâturages, pour que les troupeaux soient bien. En plus, les troupeaux n'étaient pas son troupeau. C'était le troupeau de son beau-père. Il était comme dépouillé de tout, livré à lui-même. Ce n'est pas parce qu'il était dépouillé de tout, livré à lui-même, que Dieu l'avait abandonné, que l'appel qui était sur sa vie était abandonné par Dieu. Le temps n'était pas venu, mais quand le temps est venu, Dieu est venu chercher Moïse dans sa misère, dans sa souffrance, dans un métier où il ne connaissait pas, où il ne maîtrisait pas, pour lui faire entrer dans un plan éternel. Qui suis-je? Ça peut nous pousser dans une situation où on peut se retrouver dans une condition, quelque chose où on n'aime pas, mais on est obligé de le faire pour avoir à manger. Un travail qu'on n'aime pas, mais on est obligé de le faire. On va au travail avec le boule au ventre, stressé, angoissé, mais on est obligé d'y aller parce qu'on a des crédits à payer. Affronter toujours cette collègue qui a toujours le dernier mot sur nous, on ne sait pas comment gérer cette situation. On est obligé d'y aller quand même. Qui suis-je? Livré à lui-même, n'ayant pas d'avenir, une situation peut-être humiliante qui brise tous ses espoirs et les perspectives d'avenir, une maladie peut-être qui peut nous frapper, une situation familiale qui peut nous bouleverser, et aussi renverser les fondements que nous avons bâtis depuis des années. Un enfant peut-être qui tourne mal, ou le couple qui bat de l'aile, où on se pose tellement de questions. Qui suis-je? Qui suis-je pour que ça m'arrive? Un crédit peut-être à rembourser, les dettes, une situation spirituelle en crise, on ne maîtrise plus rien, on ne sait pas comment gérer la situation. Toutes ces choses nous dépassent. On ne sait pas comment faire. On ne sait pas qui nous sommes devant cette situation. Moïse se posait tellement de questions. Et peut-être comme vous, vous vous posez des questions. Moïse s'est posé des questions. Et j'aimerais partager quelques questions avec vous ce matin. Peut-être vous dites dans votre cœur, qui suis-je? Est-ce que je suis une bonne mère? Est-ce que je suis un bon père? Est-ce que je suis une bonne sœur, une bonne chrétienne? Est-ce que je suis un bon frère fidèle avec le Seigneur? Qui suis-je dans ce monde? Quelle est ma vocation? À quoi Dieu me destine? Toutes ces questions peuvent traverser nos pensées à une situation, à une circonstance de nos vies un jour, mettre notre foi à l'épreuve et peut nous déstabiliser. Ou cela nous pousse à chercher Dieu, voire à voir les réponses qui viennent de Dieu. J'aimerais dire à quelqu'un, si vous vous posez cette question, allez au pied de la croix. Là, il y a une réponse qui vous attend. Si vous rencontrez Christ, il vous dira, qui suis-je? Il vous dira, qui vous êtes? Et vous retrouverez votre identité en Christ. Parce que toutes ces choses qui sont arrivées dans la vie de Moïse, c'était pour déstabiliser la foi de Moïse, cette confiance qu'il avait en Dieu. La Bible dit que, or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère et une démonstration de ce qu'on ne voit pas. Toutes ces choses que Moïse a vécues, c'était pour le décourager, saper le moral, pour bousculer sa foi, afin qu'il ne puisse pas avoir confiance à celui qu'il a appelé. Qui suis-je? Quand nos vies sont chamboulées, quand les situations nous frappent, quand les événements nous échappent, quand la maladie nous frappe, quand nous nous trouvons dans des situations difficiles, quand le fondement est brisé, la Bible dit ceci dans Psaume 11, verset 3, quand les fondements sont bouleversés, que fait le juste? Que fait le juste? Et la Bible répond à cette question ce matin dans Psaume 46, verset 2 à 3. Dieu est pour nous un refuge. Le juste a un Dieu de refuge. Il a Dieu comme refuge et un appui, un secours toujours présent dans la détresse. C'est pourquoi nous sommes sans crainte quand la terre est bouleversée, quand les montagnes sont ébranlées au cœur des mers. Quand la situation vous dépasse, frères et sœurs, amis, ce matin, vous avez un refuge, un appui, un abri qui ne manque jamais dans la détresse. Un abri sûr. Jésus, une fois, va poser cette question à ses disciples. Jésus arriva dans le territoire de Césarée de Philippe. Il demanda à ses disciples, « Qui suis-je ? » Si Moïse a posé cette question, le Fils de Dieu, Dieu fait chair, est venu sur cette terre, lui-même il s'est posé cette question, « Qui suis-je ? » Mais pas pour se remettre des questions, poser des questions sur lui-même, mais pour ses disciples, pour qu'ils puissent dire de leur bouche ce qu'ils pensent de lui. Qui suis-je d'après les hommes? Moi, le Fils de l'homme. Il répondit, les uns disent que tu es Jean-Baptiste, les autres Élie, les autres Jérémie, les autres des prophètes. Et d'après vous, qui suis-je? Leur dit-il. Et Simon-Pierre va répondit, tu es le Messie, le Fils de Dieu vivant. Jésus reprit la parole et dit, tu es heureux, Simon, fils de Jonas. Car ce n'est pas une pensée humaine qui t'a révélé cela, mais c'est mon Père céleste, Matthieu 16, verset 13-17. Dans les moments bouleversants, dans les moments où on se pose des questions, nous avons besoin, frères et sœurs, amis ce matin, nous avons besoin de la révélation de l'amour de Dieu. Nous avons besoin de la révélation de qui est notre Dieu. Et Pierre va être inspiré ce jour-là par le Saint-Esprit pour révéler qui est Jésus. Et j'aimerais nous poser la question, frères et sœurs, qui est Jésus pour toi? Qui est Jésus pour nous ce matin? Est-ce qu'il est que le Sauveur? Est-ce qu'il est le Seigneur? Est-ce qu'il est celui qui nous bénit, qui nous guérit? Mais qui est Jésus? La Bible dit qu'il est 100% Dieu et 100% homme. Il s'est fait chair pour venir sur la terre. Dieu fait chair, venu sur la terre pour nous révéler combien le Père nous a aimés. Et si quelqu'un doute de l'amour de Jésus ce matin, j'aimerais vous dire ce matin, Jésus t'aime, qu'importe ce que tu as fait, Jésus t'aime. Il y a un homme un jour aux États-Unis, avant qu'il soit aux États-Unis, il vivait dans un pays lointain, en Colombie. Alors qu'il avait 8 ans, il voyait ses parents se lever en lévitation. Ce n'était pas prévu dans mon message, mais c'est un témoignage. Il pratiquait la sorcellerie. Il était de Porto Rico. Ses parents pratiquaient la sorcellerie. Donc lui, il a grandi dans cette situation-là, à 8 ans. Et un jour, un matin, sa mère se lève devant lui. Et sa mère commence à déverser le venin de l'enfer sur la vie de cet enfant en disant à cet enfant, je ne t'aime pas, tu n'es pas mon fils, tu es le fils du diable. Et cette parole, cette semence amère, destructive, est entrée dans le cœur de cet enfant de 8 ans, est entrée comme une bombe destructive. Et cet enfant de dire à sa mère, tu n'es plus ma mère, je considère pour moi que tu es morte. Depuis ce jour, il a refusé de pleurer à l'âge de 8 ans. On l'a mis dans l'avion, on l'a envoyé en Amérique, à Los Angeles. Quand il arrive à l'aéroport, il s'est fui, il est parti. Il arrive dans une ville où c'est Los Angeles, la ville qui ne dort jamais. Et il va se retrouver parmi les gangs. Et là, il va apprendre à tuer. Il va apprendre à détruire, il va apprendre à se battre. Il avait la haine dans son cœur. Il était mort à l'intérieur. Un jour, alors qu'il faisait, les gangs se sont battus et la police l'a attrapé, on l'a amené pour le psychanalyser. Le psychiatre va lui demander de faire un dessin. Et dans ce dessin, il va dessiner une belle fleur, une belle femme avec des arbres. Alors, pour lui, c'était le meilleur dessin. Mais derrière ce dessin, ce psychanalyste voyait un homme qui était mort. Et voilà, son nom, ce psychanalyste va dire, « Nicky, Nicky, tu es mort à l'intérieur. Toi-même, tu ne t'aimes pas. Personne ne peut te faire confiance. Nicky, il y a quelque chose qui a été brisé en toi. Nicky, ce qui t'attend, c'est le couloir de la mort. » Voilà les paroles que les hommes ont déversées sur lui. Il ne connaît que des paroles de destruction. Mais un jour, quand il est sorti de prison, il aimerait plus les prisons qu'à l'extérieur, parce qu'à l'intérieur, il détruisait des vies. Il avait le sang humain sur ses mains. Qui suis-je? C'est cet homme que Dieu va choisir, va envoyer son serviteur, David Wilkerson, pour lui parler de l'amour de Dieu. Et quand il va le rencontrer, il va le dire, il va lui prêcher l'évangile. Et Nicky Cruz de prendre David Wilkerson avec le col pour lui faire la peau, parce qu'il avait l'habitude de ça. Il va lui faire mal, le jeter par terre, lui donner des coups de pied. Et David Wilkerson de lui donner la parole de l'esprit. Nicky, je sais que tu peux me tuer. Je sais que tu peux me détruire. Tu en as détruit peut-être des dizaines. Tu as peut-être le sang humain dans tes mains. Mais Nicky, j'aimerais te dire quelque chose. Tu peux me couper en morceaux. Tu peux détruire ma vie. Mais chacun de ces morceaux te dira, Nicky, Jésus t'aime. Jésus t'aime. Jésus t'aime, mon frère, ma soeur. Jésus t'aime. Il a donné sa vie à la croix pour toi. Et c'est cette parole qui a bouleversé la vie de cet homme. Il va retrouver son identité en Christ. Il va devenir un instrument puissant, sillonnant le monde pour prêcher cet évangile qui change les hommes et les femmes, les introduit dans le royaume. Mon frère, ma soeur, Dieu n'a pas fini avec toi. Je n'ai même pas fini encore le message. Mais votre pasteur m'a donné 45 minutes. Je suis à une demi-heure déjà. Je n'ai pas fait le premier point encore. Et je suis à Gap. Je partage avec mes frères Gaponcé et Gaponcèse. C'est ça? Parce que les Gapillons sont à la maison, c'est ça? Hein? Exemple des disciples dans Actes chapitre 17. La Bible dit ceci, « Mais les Juifs jaloux prirent avec eux quelques méchants hommes de la populace provoquèrent des attroupements et répandirent l'agitation dans la ville. » Ils portèrent la maison de Jason et ils cherchèrent Paul et Silas pour les amener vers le peuple. Ne les ayant pas trouvés, ils traînèrent Jason et quelques frères devant les magistrats de la ville en criant « Ces gens qui ont bouleversé le monde sont aussi venus. Ici, Jason les a reçus. » Ils agissent tous contre les édits de César, disant qu'il y a un autre roi. Ces hommes qui ont bouleversé le monde, ils ont retrouvé leur identité. Quand vous retrouvez votre identité, vous pouvez bouleverser votre monde. Ah, vous ne croyez pas ce que je dis? Et pourtant, c'est une réalité. Quand vous retrouvez votre identité, vous allez bouleverser votre monde. Quand ils ont retrouvé leur identité, ils savaient qu'ils étaient en Christ, leur vie était cachée en Christ. Le message qu'ils avaient était puissant. Ils sont partis partout. Ils commençaient à changer des vies. Ils commençaient à transformer des vies parce qu'ils savaient que Christ était en eux. J'aimerais partager le CV de Moïse ce matin. À la cour du Pharaon, il était bien connu en tant que fils d'une princesse égyptienne et disposait des serviteurs prêts à le servir, à satisfaire tous ses désirs. Un homme puissant en parole, nous dit la Bible, puissant en parole et en œuvre. Un homme de pouvoir, d'autorité. Un homme qui avait une grande responsabilité. Et c'est cet homme qui a perdu son identité que Dieu va maintenant entrer en scène pour le faire entrer dans l'identité que Dieu avait prévue pour lui. Dieu partage le fardeau qui pèse sur le cœur du Créateur. Comme un livre ouvert, Dieu va lui ouvrir son cœur. Je pense que si vous rencontrez quelqu'un dans la rue, vous n'allez pas lui ouvrir votre cœur. Ça n'arrive pas ici, j'espère. Il faut faire attention, dit votre pasteur. Vous rencontrez quelqu'un sur le marché, alors vous donnez carte bleue, le chéqué, tout ça. Non, c'est pas ça. Hein. Vous me faites peur, là. Vous... Ça va ? C'est pas comme ça ici, non ? J'ai besoin que vous répondez, s'il vous plaît. Vous donnez votre carte bleue ou carte blanche, hein, je ne sais pas. Hein, c'est... Non, c'est pas comme ça ? D'accord. On n'ouvre pas son cœur à tout le monde. C'est un jardin secret. Dieu a déposé des secrets, des promesses qui sont personnelles. Et on doit garder notre cœur. Dieu a déposé un plan divin pour vous dans votre cœur. Des promesses dans votre cœur. Il a préparé cela avant la fondation du monde pour vous. Comme un dépôt, Dieu a déposé aussi des révélations dans votre cœur. Les secrets nous sont communiqués par les uns et les autres. Nous devons les garder précieusement et prier pour les uns et les autres. Nos cœurs sont une source d'information et une mine d'information. Le diable cherche toujours à semer dans notre cœur toutes sortes d'impuretés et que nous soyons impropres dans les mains du Saint-Esprit. C'est pour ça que la Bible dit ceci, dans Proverbes 4, verset 23. Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui jaillissent les sources de la vie. La version Parole Vivante dit ceci, par-dessus tout, surveille ton cœur, car il est la source de vie. Dans son amour infini, ce Dieu puissant, ce Dieu d'amour, l'Éternel ouvre son cœur de père à Moïse, pour lui révéler les choses cachées que lui seul connaissait. Dans l'histoire du monde, Dieu cherche encore des hommes et des femmes à qui il va ouvrir son cœur. Ma sœur, est-ce que Dieu peut trouver ton cœur pour ouvrir et déposer son fardeau pour la ville de Gap? Mon frère, est-ce que Dieu peut trouver ton cœur pour que ce cœur soit ouvert pour déposer le fardeau des voisins qui sont autour de toi, qui sont dans ton immeuble ou peut-être à côté de ta maison, qui ne te disent peut-être pas bonjour, mais Dieu a besoin de les sauver. Parce que Dieu a un peuple nombreux dans cette ville de Gap. Dieu peut-il trouver un cœur? Il a trouvé le cœur de Moïse, un cœur disposé. Dieu a besoin des amis, Dieu a besoin des serviteurs, des fils et des filles du royaume à qui il va disposer le royaume à leur faveur. Et la question que j'aimerais nous poser, mon frère, ma sœur, est-ce que nous sommes disponibles? Est-ce que nous entendons les cris dans les hôpitaux à Gap, des frères et des sœurs ou même des personnes qui ne connaissent pas Dieu, qui disent « Mais qui peut m'aider ?» Ils souffrent. Ils sont dans l'angoisse, ils sont dans la dépression, ils sont dans la souffrance, ils sont dans l'esprit de suicide, ils veulent finir avec leur vie. Dieu entend du haut des cieux, il a besoin d'un cœur disponible pour déverser son cœur. Mais est-ce que je suis disponible? Ou ma prière, Seigneur, bénis-moi, bénis ma famille, bénis mon travail, bénis-moi, moi. Ici à Gap, je sais que ça n'existe pas. Ailleurs. Le cœur du Père Céleste cherche encore un homme, une femme qui peut l'écouter, lui obéir et qui devient véritablement un ouvrier avec Dieu. Parce que la Bible dit que nous sommes ouvriers avec Dieu. Nous sommes son ouvrage. La parole ayant été créée, nous avons été créés à l'image de Dieu pour les bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous puissions les accomplir. Quelles sont ces choses que Dieu veut déposée sur le cœur de Moïse. La Bible dit ceci dans Exode 3, versets 7 à 10. Dieu va révéler à Moïse. Il dit, Moïse, voilà ce que je vois que tu ne vois pas. Toi, tu habites Madian, moi j'habite le ciel, moi je connais toutes choses, voilà ce que je veux te partager. Et Dieu va ouvrir son cœur et dit, Moïse, vois ce que je vois, entends ce que j'entends et je partage avec toi afin que tu puisses entrer dans mon plan et manifester ma gloire sur cette terre parce que j'étais créé pour cela. L'Éternel dit à Moïse, j'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte et j'ai entendu les cris qu'il pousse devant ses oppresseurs. Oui, je connais ses douleurs. Je suis descendu pour le délivrer de la domination des Égyptiens et pour le faire monter dans ce pays jusqu'à dans un bon pays, vaste pays, un pays coulant le lait et le miel. C'est l'endroit qu'habitent les Cananéens, les Hittites, les Amoréens, les Phérésiens, les Éviens et les Jébusiens. Maintenant, les cris des Israélites sont venus jusqu'à moi. J'ai aussi vu l'oppression que leur font subir les Égyptiens. Les choses qui pèsent sur le cœur de Dieu, Dieu le dépose sur le cœur de Moïse. J'ai vu la souffrance de mon peuple et j'ai entendu le cri qu'il pousse devant les oppresseurs. Oui, je connais ses douleurs, je suis descendu pour le délivrer de la domination égyptienne. Le peuple subissait l'oppression. Alors que je partageais l'oppression dans le culte, dans la réunion de vendredi, je l'ai partagé un petit peu. Dans nos églises, même à l'extérieur, il y a des gens qui vivent de l'oppression satanique, de l'oppression démoniaque. Ils ont peur de la nuit. La nuit est faite pour se reposer, mais ils ne dorment pas la nuit. Ils sont obligés de prendre des somnifères pour dormir, pour soulager leur conscience, tellement que leurs esprits sont occupés par l'oppression de l'ennemi. Dieu veut se servir de nous pour les délivrer. Le peuple subissait l'oppression. Il avait déjà préparé un pays pour accueillir le peuple, mais Moïse ne savait pas. Un pays de bénédiction, Moïse ne savait pas, mais Dieu va lui révéler. Dieu avait trouvé le libérateur, mais le libérateur était centré sur lui-même. Dieu nous a envoyé le libérateur, Jésus-Christ. Et Jésus nous envoie comme des libérateurs pour aller libérer les autres. Est-ce que vous le savez? Coucou! Je vous endors, vous pouvez me dire, hein? Alors je répète. Dieu a trouvé le libérateur, donc il a trouvé Moïse. Et Dieu a envoyé le libérateur, donc il a envoyé Jésus-Christ pour nous libérer. Donc, la Bible dit ceci, si le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. Et si je suis libre, je peux libérer quelqu'un. Puisque le Seigneur me donne l'onction. La Bible dit que, dans Ésaïe 61, dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi. Il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres, pour guérir les cœurs brisés, pour renvoyer libres les opprimés, pour proclamer une année de grâce. Donc, l'onction qui reposait sur Jésus, c'était pour libérer tout ce qui était opprimé, tout ce qui était dépressif, tout ce qui était sous la condamnation de l'ennemi. Jésus les libère pour qu'ils deviennent quoi? Eux aussi, de leur part, ils deviennent des libérateurs. Le fait que vous allez voir quelqu'un et dire, mon frère, ma soeur, ami, Jésus peut te libérer, Jésus peut te guérir, et prier avec lui, et les démons sont chassés, et cet homme, cette femme est libre. Ah non, vous ne croyez pas. Vous devez sauter sur votre chaise. Jésus vous rend capable pour libérer les captifs. Vous ne croyez pas. J'étais dans une église, j'étais en train de prêcher. Le Seigneur me donne une parole. Il y avait une dame dans cette réunion. Cette dame était camerounaise. Et cette dame ne dormait pas la nuit. Cette dame, je l'ai raconté vendredi, cette dame, quand elle dormait, elle voyait des chiens qui la poursuivaient. Elle entendait comme des voix qui la poursuivaient. Et cette dame, elle n'arrivait pas à trouver le sommeil. Et ce matin-là, je prêchais et le Seigneur me dit que cette personne est ici dans la salle. Et quand j'ai dit, il y a cette personne ici dans la salle, et j'ai demandé à cette personne de venir, et elle s'est levée. Et quand elle s'est levée, je suis allé vers elle. On a prié pour elle. Et quand j'ai prié pour elle, elle est rentrée chez elle. Elle est rentrée chez elle, celle qui ne pouvait pas dormir. Elle a trouvé le sommeil. Elle dormait comme un bébé. Comme un bébé. Vous avez déjà vu les bébés dormir? Qui n'a pas vu encore un bébé dormir? D'accord. Elle a retrouvé le sommeil. Jésus peut le faire à travers vous. Vous vous posez la question, qui suis-je? Qui suis-je pour que Dieu m'utilise? Je vais m'arrêter là ce matin. Mais je vais finir avec ça. La question que peuvent poser les... Alors qu'ils sont dans la souffrance, Dieu avait déjà tout préparé pour leur avenir. Le secours pour le moment opportun. Les questions que peuvent poser le peuple dans le temps difficile. Dans les temps difficiles, on peut se poser beaucoup de questions. Et peut-être que le peuple se posait des questions. Peut-être, le peuple disait, cela fait 400 ans, 430 ans que nous souffrons, nous prions, nous jeûnons, nous crions à Dieu pour la situation, mais notre situation ne change pas, alors que le libérateur était là. Nous invoquons notre Dieu, mais rien ne se passe. Nous attendons au miracle, mais rien ne bouge. Nos cœurs sont toujours dans les chagrins perpétuels. Quand viendra la délivrance? Est-ce que Dieu voit mon humiliation? Est-ce que Dieu voit mes combats? Est-ce que Dieu s'intéresse-t-il vraiment à mes cris? Est-ce qu'il m'entend? Quand cela va durer encore? J'en ai assez et je suis à bout. Mes larmes sont constamment devant moi, dit David. J'ai perdu la joie et l'espérance en lui. Je ne sais pas quoi faire devant cette situation. J'ai l'impression que ma prière ne dépasse pas le plafond. Ce sont là des questions qui peuvent surgir des cœurs dans les moments difficiles. Et j'aimerais m'arrêter là ce matin. Mais Dieu dit à Moïse, maintenant vas-y, je t'enverrai vers le Pharaon et tu le feras sortir d'Égypte, mon peuple. Est-ce qu'on peut incliner la tête, s'il vous plaît? Est-ce que je peux demander, pasteur, aux musiciens de monter, si cela ne vous dérange pas? On va prendre un chant, on va laisser le temps à l'action de l'Esprit de Dieu pour que Dieu puisse agir. Il y a des personnes qui se posent encore des questions ce matin. Et je sais que Dieu vous a parlé ce matin. Les musiciens sont là, ils peuvent monter, s'il vous plaît. On va prendre ce fond musical, même si les océans... Si. J'aimerais qu'on puisse baisser la tête et laisser la place à l'Esprit de Dieu, s'il vous plaît. Je ne connais pas les océans dans lesquels vous passez actuellement. Et comme il a dit le pasteur ce matin, peut-être que vous êtes venu pour la première fois, vous n'avez pas encore accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Pour trouver la question à qui suis-je, vous devez rencontrer celui qui a dit... Je suis celui qui suit. Jésus-Christ de Nazareth. Et si vous n'avez pas encore donné votre vie à Jésus-Christ, j'aimerais prier avec vous ce matin. Jésus-Christ est mort à la croix pour vos péchés, afin que vous puissiez être réconcilié avec Dieu, avoir votre nom inscrit dans le livre de vie. La Bible dit qu'il est à la droite du Père, il intercède. Et ce matin, il désire que vous ayez la paix dans votre cœur, la joie dans votre cœur. Y a-t-il une personne ce matin qui dit, moi je vais donner mon cœur à Jésus. Là où vous êtes, s'il vous plaît, les têtes sont baissées. J'aimerais prier avec cette personne. Je ne peux pas vous laisser rentrer chez vous tant que vous n'avez pas fait la paix avec Dieu. Parce que Dieu me demandera, mais espoir, je t'ai envoyé à Gap pour apporter la bonne nouvelle, pour que cette âme soit libérée. Pourquoi tu n'as pas parlé de mon amour? Pourquoi tu n'as pas parlé de la croix? Pourquoi tu n'as pas parlé de Jésus, de cet amour qui est descendu du ciel sur la terre pour transformer les cœurs qui sont humiliés, qui sont blessés, qui sont détruits, des cœurs qui sont dans l'échec? Dieu veut pardonner et libérer.
Alléluia.
Y a-t-il une personne qui veut donner son cœur à Jésus ce matin? Levez votre main, s'il vous plaît. J'aimerais prier avec vous. Vous voulez faire la paix avec Dieu. Vous avez cette assurance que si vous mourrez aujourd'hui, vous n'avez pas cette assurance que vous allez au ciel. J'aimerais prier avec vous ce matin. Y a-t-il une personne? Tout le monde a déjà donné son cœur à Jésus-Christ ici.
Même si les enseignants se déchaînent, je les traverserai avec toi. Père, tu domines les tempêtes. Je suis tranquille car tu es là. Même si les enseignants se je les traverserai avec toi. Père, tu domines les tempêtes. Je suis tranquille car tu es là. Je suis tranquille car tu es là. Merci Seigneur pour ta présence. Merci pour ta puissance qui est à l'œuvre et qui dissipe, Seigneur, les tempêtes. Toi qui viens en aide à celui qui est dans le besoin. Toi, Seigneur, qui ne te plaît pas à nous voir dans nos souffrances, mais qui veut le bonheur de l'homme. Oh, Seigneur, nous bénissons ton nom. Parce que oui, encore aujourd'hui, tu veux, Seigneur, relever, soulager, tu veux encourager, fortifier. Je bénis ton Saint-Nom pour ta parole qui nous montre encore, oui, Seigneur, que tu veux être à l'œuvre dans la vie des hommes. Il advient à chacun, c'est vrai, de saisir cette grâce, Seigneur, qui s'offre à nous. Merci pour ta présence. Merci pour ton serviteur, bénis-le. Ô Seigneur, que cette parole que nous avons entendue fasse son chemin dans nos cœurs, Seigneur. Nous savons qui nous sommes en toi. Ô Éternel, tu as changé nos vies. Tu as façonné nos cœurs. Tu nous as transformés. Nous qui étions morts, tu nous as rendus à la vie. Et à cause de cela, Seigneur, nous sommes tes enfants. Ô Seigneur, mon Dieu, mon roi, oui, je bénis ton nom pour ta présence. À toi la gloire éternelle.
À toi la gloire,
oh
Dieu.
Amen.